VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Relations États-Unis-Iran. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé ce mercredi que son pays répondrait de manière appropriée aux nouvelles sanctions américaines contre Téhéran, mais qu'il restait engagé par l'accord nucléaire conclu avec les grandes puissances. Washington a imposé ces nouvelles mesures hier pour punir l'Iran pour son programme de missiles balistiques. Mais la Maison-Blanche a aussi décidé de préserver l'accord international de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Plus de détails sur les nouvelles sanctions américaines avec Eric Manirakiza.
Il s'agit de sanctions juridiques et financières. Le département d'État et le Trésor ont ciblé 18 personnes et entités iraniennes liées aux missiles balistiques et au corps des gardiens de la révolution, armée d'élite de la puissance chiite. Les États-Unis estiment que les activités de l'Iran au Moyen-Orient sapent la stabilité, la sécurité et la prospérité de la région. C'est notamment l'appui au Hezbollah, au président syrien Bachar al-Assad et aux rebelles houthis au Yémen. En représailles, le Parlement iranien a entamé une procédure pour voter une loi de renforcement du programme balistique en vue, dit-il, de lutter contre les actions terroristes et l'aventurisme de Washington. En revanche, le président Donald Trump s'est pour l'instant bien gardé de sortir de l'accord historique en matière de non-prolifération nucléaire signé avec Téhéran. Le secrétaire d'État Rex Tillerson a certifié auprès du Congrès que l'Iran respectait les termes de cet accord que le candidat Trump avait promis de déchirer durant sa campagne.
À la CPI, la Cour pénale internationale doit rendre ce mercredi sa décision sur la demande de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo d'être libéré pour le reste de son procès pour crimes contre l'humanité lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Premier ex-chef d'État remis à la CPI, Laurent Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la Cour de le maintenir en détention à La Haye pendant toute la durée du procès. L'ancien président, âgé aujourd'hui de 72 ans, et Charles Blé Goudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à Laurent Gbagbo, sont accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Les 2 hommes ont plaidé non coupables. En RDC, le juge Jacques Mbouyi, qui devait être membre du tribunal s'occupant du procès de l'opposant Moïse Katumbi à Lubumbashi dans le sud-est du pays, est à l'hôpital, sérieusement blessé par balle après avoir été attaqué chez lui vers 1h du matin ce mercredi par des hommes armés. Selon notre correspondant sur place, Narval Mabila, l'épouse et la fille du juge auraient été aussi agressées sexuellement. L'audience au sujet de l'appel au procès pour lequel l'opposant congolais, actuellement à l'étranger, a été condamné à 3 ans de prison en 2016, est censée reprendre aujourd'hui, Eddie Sango.
Maître Jean-Joseph Mukendi, l'avocat de Moïse Katumbi, a déclaré à VOA Afrique que toutes les preuves démontrant que son client a été injustement condamné et pour des raisons politiques seront à nouveau présentées lors de ses procès en appel. Ces preuves sont à la disposition de tout le monde. Plus d'une personne ont témoigné. Les propriétaires de l'immeuble est connu. Ils s'en réclament. C'est le frère de Katumbi qui a un certificat d'enregistrement valide de plus de 30 ans, donc inattaquable, a indiqué l'avocat. Moïse Katumbi a été condamné pour spoliation du meuble par contumace à 3 ans de prison en mai 2016, dans un procès dont le plaignant était un sujet grec. Une condamnation prononcée alors que M. Moïse Katumbi venait de quitter le pays pour des raisons de soins de santé à l'étranger sur autorisation du procureur général de la République. L'opposant était sous enquête, accusé de recrutement des mercenaires après avoir déclaré sa candidature pour la présidentielle. Récemment, le procureur de la République a révoqué l'autorisation accordée à Katumbi pour des soins à l'étranger au motif qu'il aurait violé la consigne de garder les silences qui lui avait été notifiée.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Togo, la région des savanes avec pour chef-lieu d'Apaong, à 620 km au nord de la capitale Lomé, figure parmi les régions les plus touchées par le VIH-Sida dans le pays. Pour venir en aide aux enfants locaux porteurs du VIH ou ceux dont les parents sont séropositifs, enfants qui sont traités à tort d'enfants sorciers, une ONG les recueille dans son centre, la Maison Sainte-Monique. Le reportage de notre correspondante sur place, Kylie Lawson.
Voici la devanture de la maison Sainte-Monique de l'ONG Vivre dans l'Espérance. Ce pensionnat accueille des enfants infectés et affectés par le VIH-Sida. Aucune enseigne lumineuse pour signaler le centre, à part ce petit écriteau à peine visible. Nous sommes accueillis par Rita Kagba, la responsable de la maison familiale Sainte-Monique.
Les enfants que vous voyez dans cette maison, c'est des enfants qui ont perdu les parents très tôt et où la fille ou le garçon de 9 ou 10 ans devait prendre la charge de ses petits frères. Donc depuis les années 2012, on a essayé de les mettre ensemble pour former une nouvelle famille. D'où pour d'autres, c'est la seule famille qui les reste actuellement où je vous parle. Donc actuellement ici, moi j'accueille 97 enfants, dont 16 qui n'ont pas encore 4 ans.
Créé il y a une vingtaine d'années par la sœur Marie Stella Couac, l'ONG Vivre dans l'Espérance veut redonner de l'espoir à des enfants particulièrement vulnérables et abandonnés.
En Afrique, il y a toute la communauté sur laquelle on peut compter quand le père ou la mère n'est pas là. Malheureusement, le VIH a cassé un peu cette unité au niveau des communautés familiales.
Il y avait des enfants, à partir du moment où les parents étaient décédés, surtout les enfants contaminés, on ne pouvait pas les garder. On disait, s'ils ne peuvent pas vivre, à quoi ça sert de dépenser pour les soigner? Il faut les laisser mourir, il faut les chasser. Et moi, j'allais contre ce vent. Je me disais, un enfant malade a aussi autant d'importance qu'un enfant non malade. Et si on espère un tout petit peu, c'est pour ça que l'association s'appelle Vivre dans l'Espérance, si on espère un tout petit peu qu'il y a des médicaments qui arrivent, ces enfants vont vivre. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse que mes premiers enfants infectés sont déjà à l'université.
Parmi les tout premiers pensionnaires de cette maison, on cite le nom de Richa Latou Alassani, aujourd'hui étudiante en gestion des ressources humaines à l'université de Kara.
Ce centre-là, c'est ma famille. Du coup, depuis 3 ans, je suis là avec les autres enfants, donc j'ai grandi ici. Et c'est ma famille, quoi. Non, sans ce centre-là, je ne pense pas que je serais en vie, parce que quand j'étais très petite, je tombais souvent malade. Et c'est notre maman, la sœur Stella, qui m'a toujours soignée à la pédiatrie, tout ça. Si je n'avais pas rencontré ce centre ou si la sœur ne m'avait pas accueillie, je ne pense pas qu'aujourd'hui j'allais vivre.
Tout comme Richard Latou, Jean Yoabol a été recueilli par le centre à l'âge de 11 ans suite au décès de ses parents. Sa licence en gestion de projet en poche, il est revenu se mettre au service de sa maison.
Je suis revenu pour donner un peu de mon temps à l'association Vivre de l'Espérance puisque c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance-là. Et si j'ai eu la chance d'être pris en charge par une structure pareille, je donne aussi de mon temps pour pouvoir aider mes jeunes frères. Depuis que je suis arrivé, j'avais constaté qu'il y avait un petit manque d'organisation. Donc j'essaie de restructurer la maison. J'essaie de donner aussi de mon temps pour donner des cours de rattrapage à niveau à certains qui demandent service.
Dépistée séropositive il y a quelques mois, Mary Yedongu est venue chercher du soutien pour ses enfants auprès de Vivre dans l'Espérance.
J'étais souffrante et puis j'ai suivi le test de dépistage et ça s'avérait positif. Jusqu'ici, je n'ai plus de force pour travailler et on m'a dirigé vers le centre et ils ont accepté de prendre en charge mes enfants. J'attends à ce que le centre puisse accompagner mes enfants, même si je meurs aujourd'hui, que mes enfants puissent trouver un lendemain meilleur.
L'ONG dispose de 2 maisons familiales où vivent 150 enfants, mais prend également en charge des centaines d'enfants dans des familles d'accueil. Kailoson, Dapaon, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, un député de l'ANC au pouvoir et aussi l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, se sont joués aux nombreux détracteurs du président Jacob Zuma qui réclame sa démission. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le député Makossi Kossa a choisi le jour de l'anniversaire de Nelson Mandela pour dénoncer Zuma le traitant d'insulte à la mémoire du père fondateur de la démocratie sud-africaine. L'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, s'est joint lui aussi aux nombreuses autres personnalités du Congrès national africain, l'ANC, pour réclamer le départ du chef de l'État. Selon lui, le président Zuma devrait s'effacer de la scène politique et laisser quelqu'un d'autre diriger le pays afin de répondre aux aspirations de Mandela pour l'Afrique du Sud. L'ANC au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994 est confronté à une érosion historique de son électorat, fatigué des scandales dans lesquels est empêtré le président Zuma, de même qu'une économie en berne. Il y a un an, le parti a perdu le contrôle de plusieurs grandes villes, dont Johannesburg et Pretoria. Plusieurs partis d'opposition ont déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président Zuma.
De l'info sur VOA Afrique.
Comment tout